Croire aujourd'hui, une émission présentée par Carmen.
Chers amis, bonjour. Voici venue l'heure de notre rendez-vous pour partager des nouvelles de portes ouvertes. Donc ONG au service des chrétiens persécutés dans le monde. Et ensuite, je vous apporterai un témoignage personnel sur le thème, un thème qui nous concerne tous, c'est celui de Dieu qui éprouve notre foi, l'épreuve de notre foi. Je vais vous lire le petit mot de Michel Varton qui nous annonce deux événements à venir au mois de novembre. Chers amis, comme vous l'avez sans doute appris, je serai à la retraite d'ici peu. Mais je ne voulais pas manquer l'occasion d'être au week-end annuel avec vous. J'aurai le privilège de prendre la parole samedi soir. J'ai toujours aimé cet événement car il nous permet de nous retrouver, de partager ensemble sur un sujet qui nous tient à cœur, l'Église persécutée. Après toutes ces années, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de pouvoir retrouver celles et ceux qui, comme vous, soutiennent la mission. Ce prochain week-end annuel sera donc un peu particulier. Ce sera pour moi l'occasion de vous remercier de vive voix pour votre soutien et de partager avec vous ce que les chrétiens persécutés m'ont appris tout au long de mes 36 ans de service au sein de Portes Ouvertes. J'aurai aussi le plaisir de vous présenter celui qui prendra la suite en tant que directeur, Patrick Victor. Bien sûr, le témoignage des chrétiens persécutés restera au centre de ce week-end annuel. Nous accueillerons 7 autres orateurs qui, par leurs interventions, nous aideront à nous rapprocher encore plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de moments bénis à l'écoute de nos frères et sœurs persécutés, je ne les compte plus. Je crois que ce week-end des 2 et 3 novembre à Damary-les-Lys sera encore l'un de ces moments mis à part pour Dieu et pour son royaume. Que Dieu vous bénisse grandement. PS, je suis en train de mettre les dernières touches à un livre sur l'Église persécutée. J'aurai l'honneur de vous le présenter pendant ce week-end annuel. Et puis, un autre événement qui aura lieu le 10 novembre, c'est à l'occasion du dimanche de l'Église persécutée. Des centaines de communautés chrétiennes de France et de Belgique mettront à part la journée du 10 novembre. L'an dernier, plus de 800 églises avaient organisé cet événement au sein de leur assemblée. Portes Ouvertes met à disposition un pack de ressources avec des témoignages, des vidéos, des prédications, afin que chacun puisse participer à l'événement. Il existe également un dossier d'animation pour les groupes de jeunes et une autre pour les enfants. Ce matériel a pour objectif d'encourager les chrétiens à marcher à contre-courant. Plusieurs sujets de prière sont donnés pour animer le moment de culte. Portes Ouvertes propose même une action spéciale où les chrétiens peuvent signer un engagement de vie à marcher avec intégrité. Cet appel est une invitation à vivre pour Dieu en unité avec les chrétiens persécutés. Et aujourd'hui, je voulais vous apporter un sujet, c'est celui du Mexique. Du Mexique où il y a deux raisons principales qui expliquent la persécution des chrétiens là-bas. Ce pays se retrouve à la 39e place des pays où il est le plus dangereux de vivre en tant que chrétien. Comment cela est-il possible alors que ce pays est majoritairement chrétien ? Deux raisons. Dans les états du Chiapas, d'Hidalgo et d'Oaxaca, les chrétiens amérindiens sont persécutés par leurs tribus qui les considèrent comme des traîtres. dans plusieurs villes du Mexique, comme Ciudad Juárez, le crime organisé sème la terreur et les chrétiens sont particulièrement ciblés quand ils refusent de collaborer. Donc, premièrement, ils sont persécutés par leur communauté et deuxièmement, persécutés par le crime organisé. Au Mexique, les Amérindiens qui se convertissent au christianisme subissent un harcèlement continu, l'emprisonnement et l'expulsion de leur communauté. Les États du Chiapas, d'Oaxaca et d'Hidalgo sont particulièrement visés. Deux exemples. Dans l'État d'Hidalgo, au centre du pays, des centaines de chrétiens évangéliques de Reyes ont été harcelés et maltraités en raison de leur foi. Les dirigeants locaux et d'autres résidents de leur propre communauté sont à l'origine de cette persécution. Certaines familles chrétiennes n'ont plus accès ni à l'eau ni à l'électricité pendant des mois. D'autres doivent s'acquitter de lourdes amendes pour avoir refusé de participer à des festivals et des célébrations traditionnelles. Le catholicisme est mélangé avec des croyances locales. Et c'est au Chiapas que la persécution envers les chrétiens amérindiens est la plus forte. Rosario, une chrétienne, y a été arrêtée alors qu'elle faisait ses courses. Une vingtaine de femmes l'ont dénoncée aux forces de l'ordre. Rosario a été emprisonnée 3 jours, puis relâchée. Sa maison a été détruite. Rosario a été expulsée avec toute sa famille. Motif de son arrestation, son refus de contribuer financièrement au festival religieux de la ville. Et puis voilà, persécutée aussi par le crime organisé, les prêtres et les pasteurs sont la cible de groupes criminels organisés, dont les cartels de la drogue. Certains ont été menacés, enlevés et même assassinés, car le christianisme est perçu par ces groupes comme une menace. Par exemple, dans l'état d'Oaxaca, le pasteur José de Jésus a été tué par un groupe d'hommes membres d'une organisation rebelle opérant dans la région. Portes ouvertes œuvre auprès des chrétiens persécutés du Mexique afin qu'ils soient soutenus, et non seulement au Mexique, mais dans 50 autres pays dans le monde. Et nous allons terminer cette rubrique par la prière. Père Céleste, nous t'apportons tous ces frères et sœurs dans le monde qui souffrent à cause de leur foi en ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions, Père, d'envoyer ton Esprit Saint pour qu'ils soient soutenus, Seigneur, et protégés. Merci parce que nous savons, Seigneur, que tu leur réserves une place de choix dans ta maison, Seigneur. Merci de renouveler leur force. Et merci parce que nous savons que leur témoignage portera du fruit à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, nous allons réécouter ce chant « Plus esclave de la peur » parce que je l'aime beaucoup et je pense que vous allez encore l'apprécier vous aussi. À tout de suite.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé. Par... esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Merci à Yannick Billou pour cette très belle interprétation. Ce chant est puissant. Alors, chers amis, Dieu éprouve notre foi. La dernière fois, nous avons lu les deux premiers chapitres du livre de Job, où nous assistons à une scène étrange qui pourrait expliquer en partie comment surviennent les épreuves dans nos vies. Je dis « en partie » car en tant qu'être humain, notre perception de ce qui se passe dans ce monde, dans le monde spirituel est limitée. Il y a des domaines qui restent mystérieux, car ils appartiennent à Dieu seul. Et nous ne pourrons saisir tout cela que lorsque nous aurons quitté ce monde et que nous nous trouverons en sa présence. Tout est question de confiance en Dieu, s'attacher à sa parole, parole personnifié en Jésus-Christ. Et c'est en lisant sa parole que nous recevons progressivement la révélation nécessaire aux situations que l'on traverse. Comment recevons-nous cette révélation? Eh bien, la Bible ayant été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est précisément le Saint-Esprit qui apporte en nous la lumière au milieu de nos ténèbres d'incompréhension. Le sujet du livre de Job rapporte le problème constant de la souffrance d'un homme juste. Bien que la Bible nous dise qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre, tous les hommes sont pécheurs par nature. Mais nous savons que le malheur peut atteindre les personnes les plus droites et intègres, comme ce fut le cas pour Job. Ni lui-même ni ses trois amis n'ont pu trouver de réponse à sa souffrance. D'ailleurs, ses trois amis qui commencent d'abord par le soutenir vont se mettre à l'accuser en fouillant et cherchant dans sa vie ce qui pourrait ne pas être conforme à la volonté de Dieu. Je vais vous apporter un témoignage personnel. Ce qu'il m'est arrivé lorsque notre deuxième fils tomba malade, étant petit, à l'âge de 4 ans et demi. Après plusieurs analyses approfondies, le professeur hématologue à l'hôpital m'annonça que la maladie dont il souffrait pouvait lui être fatale. Ce professeur était un homme très chaleureux, et je comprenais bien que son devoir était de me dire la vérité. Mon mari se trouvait en déplacement. J'étais seule pour encaisser cette mauvaise nouvelle qui m'avait laissée abasourdie. Les enfants étaient à l'école. Je partis faire des courses au supermarché. Je n'oublierai jamais ces instants. Les images sont gravées pour toujours dans ma mémoire. Je me revois en train de pousser mon caddie dans le magasin, complètement étrangère à tout ce qui m'entourait, comme hébétée. Les paroles du professeur résonnaient dans ma tête. Je commençais à réaliser la terrible et douloureuse situation. Je ne connaissais pas très bien la Bible, mais je croyais en Dieu. J'avais accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, et il était mon Seigneur. Tout en déambulant avec mon caddie entre les rayons du magasin, je me mis à parler à Dieu en silence. « Seigneur, le professeur me dit que mon fils pourrait mourir de cette maladie, mais ce n'est pas possible. Tu ne me ferais pas cela. Non, Seigneur, tu m'aimes. Ça ne peut pas arriver. » Et subitement, j'entendis au fond de mon cœur, ou dans ma tête, je ne sais pas, mais j'entendis une voix, Dieu qui me répondait. Et pourquoi cela n'arriverait-il pas? Quelle surprise! Dieu était en train de me parler par le biais de cette voix intérieure, très claire. Je savais que c'était lui. La voix me dit, est-ce que cela n'arrive pas à d'autres enfants? Rapidement, je dus reconnaître que c'était le cas. À nouveau, la voix me dit, et est-ce que je ne les aime pas pour autant? Mais c'était complètement surréaliste. Dieu était en train de dialoguer avec moi. Surréaliste, mais en même temps, tellement réel. J'étais perplexe, car là aussi, j'étais convaincue, je savais que Dieu est amour. Oui, Seigneur, des enfants meurent et pourtant, tu es amour, tu les aimes tellement. Dieu continua, les questions s'enchaînaient, simples et directes, pas d'échappatoire. Il me fallait répondre rapidement. De toute façon, je devais être lucide et me rendre à l'évidence. Dieu me demanda, « As-tu le pouvoir de rallonger la vie de ton enfant ?»« Non, Seigneur, je ne peux rien faire pour rallonger la vie de mon fils. » Dieu, « Que peux-tu faire par toi-même pour que ton fils reste en vie ?» Moi, rien. Je ne peux rien faire pour le faire vivre. Dieu, « À qui appartient la vie de ton fils ?» Moi, à toi, Seigneur. La vie et la mort sont entre tes mains. Une question encore venant de Dieu. Et si je reprends la vie de ton enfant, est-ce que tu te révolteras contre moi? Même si cela me coûta de répondre, je capitulai devant Dieu. Non, Seigneur, même si tu le reprends, je ne me révolterai pas et je continuerai à t'être fidèle. Excusez-moi, je suis très émue parce que la semaine dernière, nous avons assisté aux obsèques d'un petit enfant et voilà, ça me remue encore, bien sûr. Alors, je continue. Là, je reçus la paix dans mon cœur. Ce dialogue avec Dieu avait été si fort. Sa présence tellement réelle. Personne n'aurait pu me dire que cette rencontre n'était que le fruit de mon imagination parce que tout cela était tellement réel. Dieu aimait notre petit comme un père aime son enfant. Et j'avais remis sa vie entre les mains de Dieu. Je choisis alors de lui faire confiance, quelle que soit l'issue de la maladie. L'épreuve dura plusieurs années. Nous allons marquer une petite pause et ça va nous reposer un petit peu avec Philippe de Courroux. À tout de suite.
Ma volonté, c'est le
Bien, mais je me suis un petit peu ressaisie, excusez-moi. L'épreuve de la maladie dura plusieurs années. Notre fils était récidiviste dans les rechutes. Il fallait l'hospitaliser en permanence. Combien de fois ne sommes-nous pas partis à l'hôpital en pensant que ces dernières heures étaient arrivées? Nous étions entourés de nombreux chrétiens qui priaient pour nous. Et lorsque nous pensions que nous allions sombrer dans les profondeurs du désespoir, il y avait toujours quelqu'un ou bien un groupe pour nous soutenir dans la prière. Si bien que j'avais l'impression qu'il nous tenait la tête hors de l'eau. Chose incroyable aussi parce que surnaturelle, une fois l'angoisse évacuée, je sentais à nouveau une force me porter et la paix de Jésus revenait en moi. Oui, l'épreuve fut très longue. Je n'aurais pas tenu toute seule sans tomber dans une profonde dépression. S'il m'arrivait de pleurer, je laissais sortir mon chagrin, puis je m'appuyais sur les promesses du Seigneur et je reprenais courage. Si j'avais des insomnies, je me levais discrètement pour aller au salon où je me mettais à prier pour raconter mes angoisses à Dieu. Je prenais la Bible pour en retirer des paroles de réconfort. Parfois, l'Esprit de Dieu me parlait par un verset. Il me révélait une autre facette de la situation, une nouvelle stratégie à adopter vis-à-vis de mon mari qui était opposé à ma foi, ce qui augmentait la dureté de l'épreuve. Une chose est certaine, plus la souffrance sévissait et plus je cherchais ardemment la présence de Dieu. Le psaume 46 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors, mes amis, que faut-il comprendre sur l'origine de l'épreuve qui survient dans nos vies? Par exemple, dans mon cas, est-ce que tout comme pour Job, Satan s'est un jour présenté devant Dieu pour lui demander de me faire souffrir, pour m'éprouver, me tourmenter, et cela dans le but de me détruire, car Satan est le diable. Diable signifie l'adversaire. Il est l'ennemi de nos âmes. Il ne cherche qu'à diviser et à nous anéantir. En même temps, par cette épreuve, Dieu pourrait voir les limites de ma foi. Est-ce que j'allais me détourner de Dieu, blasphémer, le renier? Certains pourraient répondre « L'histoire de Job se trouve dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire sous l'Ancienne Alliance. C'est différent avec la venue de Jésus-Christ sur terre il y a 2000 ans. Nous sommes à présent dans le Nouveau Testament, sous l'ère de la grâce. Dieu ne désire pas que nous soyons malades. Il ne désire pas que nous fassions faillite. » Mais nous sommes bien obligés de constater que la maladie, la mort font partie de la vie. Il est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 5, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Autrement dit, sur la terre, c'est le royaume de Satan, c'est le royaume du diable. Et quant à nous, chrétiens, nous sommes là sur la terre pour rendre témoignage que Jésus-Christ est vivant et qu'il offre le salut à tous ceux qui se tournent vers lui. Vous savez, mes amis, la cause de la souffrance ne nous est pas toujours révélée. Car, comme il est écrit au psaume 34, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Face à quelqu'un qui souffre, ne soyons pas comme les amis de Job, qui sont venus l'entourer, mais qui l'ont ensuite accablé, augmentant davantage sa souffrance. Que le Seigneur nous inspire par son esprit sur la bonne attitude à avoir face aux personnes qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance. Et nous soyons toujours compatissants, parce que c'est l'amour qui triomphe du jugement, et c'est l'amour qui nous aidera à sortir des situations les plus compliquées. L'amour de Dieu, il est vivant. Et comme il est écrit dans le chapitre de Paul aux Romains, chapitre 8, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté pour nous, pour notre salut. Alors, voilà, je vais vous donner un rendez-vous pour une prochaine fois et peut-être vous apporter encore un autre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse richement. À bientôt. Au revoir.
S'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face à face, un jour tout genou fléchira. Tous les peuples s'inclineront devant sa face, pour toujours il régnera. Nos yeux le verront face.